Merci de nous avoir entraînés dans la prière, la considération de paroles d'évangile. Le dernier chant parlait de la prière de Jésus. Que tous soient un, comme toi et moi, dit Jésus, parlant au Père, nous sommes un. Nous retrouvons ce même thème dans les Épîtres. Les Épîtres, c'est quand Jésus n'est plus là. Du temps où Jésus était sur la terre, on pouvait être ses disciples et marcher avec lui et apprendre. Et quand il n'est plus là, il reste un drôle de programme où Dieu se sert d'hommes et de femmes pour annoncer l'Évangile et ils font des églises. Alors, quelle est la relation entre marcher avec Jésus et apprendre comme ça et apprendre dans une église? Ah ben, vous savez, on ne voit pas la connexion souvent, mais c'est la même chose. Apprendre de Jésus, ensemble, dans la diversité, c'est aussi le programme des apôtres, des femmes et des hommes qui marchaient avec Jésus, et c'est le programme des chrétiens de tous les siècles. Les apôtres ne se ressemblaient pas les uns aux autres. Les chrétiens, vous et moi, on ne se ressemble pas beaucoup non plus. Nous sommes dans l'Épître aux Philippiens. Nous avons déjà vu, parcouru le chapitre 1, il y a quelques dimanches. Nous en sommes au chapitre 2, et puis j'en fais la lecture. C'est bizarre. Ça ne se passe pas aussi facilement qu'on l'imagine quand on est ouvert à Jésus. Nous ne sommes pas délivrés magiquement des habitudes que l'on a prises. Et tout ça ensemble, quand on ne se choisit pas, c'est des fois la cacophonie. Même dans un couple où ils se choisissent, c'est des fois pas simple, il faut s'ajuster dans la durée. Dans une église, il en va de même. Écoutez ça. Ça commence par si, 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 si. Autrement dit, vous devez un petit peu imaginer, si ce n'est pas du bluff, mon truc d'évangile. Si, il y a donc un appel en Christ. Il y a eu un appel en Christ? Vous avez eu un appel en Christ? Ou on vous a contraint en Christ? S'il y a donc un appel en Christ, un encouragement dans l'amour. Vous avez goûté l'amour? Oui? Il n'y a que moi, non? Vous aussi? S'il y a un encouragement dans l'amour, si, si, hein? Si, il y a une communion dans l'Esprit Saint, vous avez goûté l'Esprit Saint? Si, il y a une communion dans l'Esprit Saint, un élan d'affection et de compassion, vous avez senti ça? Une fois? Des fois? S'il y a un élan d'affection et de compassion, ça c'est le cœur. Alors, dit l'apôtre Paul, comblez ma joie. Combler, c'est beaucoup, hein? Ça veut dire qu'il y en a déjà un peu. Il leur dit aux chrétiens de Philippe, comblez ma joie en vivant en plein accord. Et ça y est, on est dans d'autres thèmes. Comblez ma joie, vous, qui ne vous ressemblez pas les uns les autres, nous, qui ne nous ressemblons pas les uns les autres, en vivant d'un plein accord. Ayez un même amour, un même cœur. Recherchez l'unité. Ce n'est pas donné, ce n'est pas que donné, c'est aussi à rechercher. C'est comme le royaume de Dieu. C'est donné et à rechercher en même temps. Et après, il dit, ne faites rien par rivalité. Rivalité, ça veut dire quoi? Il faut combien pour la rivalité? Deux. La semaine dernière, nous avions une petite fille, elle était toute seule, c'était magnifique. Hier soir, il y a ses frères et sœurs qui sont venus. Oups! Ça, c'est à moi! Non, c'est à moi! Non. Mais écoutez, c'est des enfants normaux, hein? Quand ça ne se passe pas, c'est bizarre. Il y a de la pathologie. C'est normal. Non? Compte tenu de qui nous sommes. Et on continue. ne faites rien par rivalité ni par gloriole, mais avec humilité. Vous connaissez la suite ? Considérez les autres comme vos chefs, comme supérieurs à vous-même. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi. Il n'y a pas dit seulement. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Ben, du coup, on est des disciples, hein, non ? Apprentissage perpétuel. Je continue. Jésus-Christ, lui, de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur. Le mot esclave, c'est la même chose. Dans l'église de Philippe, il y a une esclave. Qui c'est ? Ah, vous ne connaissez pas l'église de Philippe ? Il faut qu'on fraternise un petit peu. Hein ? On aura l'occasion tout à l'heure. Devenant semblable, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Et par son aspect, il était reconnu comme un homme, Jésus. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort, sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Élevé, c'est ce que les gens de Philippe aimaient être. Là, je suis élevé par rapport à vous, hein, c'est pour que je vous voie tous et que vous me voyez. Mais si dans la tête, on est élevé, c'est autre chose, hein. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Je ne sais pas si c'est les morts ou si c'est les mineurs, enfin, toujours est-il. Dans les cieux, sur la terre, en tout cas nous on y est là, sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que le maître, le Seigneur, le prototype d'une création guérie, dirait, hein, que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Jusqu'à là, à la lecture de la parole de Dieu, on est en plein dans le sujet. Cette joie plus forte que les disputes. Les deux, vous avez remarqué, sont présents ? On ne dit pas à quelqu'un, soyez plein d'accord, hein, pleinement en accord, si c'est le cas. Non ? Alors, petite révision, Philippe. Philippe, c'est de l'autre côté du bout de terre où Paul a l'habitude d'être. Paul, c'est quelqu'un qui est dans le business du tissu, hein, c'est aussi un théologien, mais il a l'habitude d'être à droite, et le Seigneur, puisque vous savez, quand on a des habitudes, le Seigneur, de temps en temps, exceptionnellement, mais de temps en temps, il donne des rêves. Habituellement, stratège, c'est Paul. Dieu dit, je t'ai donné une cervelle dans ta tête, utilise-la. Exceptionnellement, quand la cervelle ne suffit pas, il dit, t'as pensé que de l'autre côté, il y en a qui t'appellent pour annoncer l'évangile, et ils voient un Macédonien. Les Macédoniens, c'est justement Philippe et compagnie. Et il va continuer, parce que c'est un peu terra incognita. Là où je n'ai pas trop l'habitude de l'autre côté. Le Seigneur lui dit, va. Donc, exceptionnellement, quand notre imagination ne suffit pas, le Seigneur peut donner des rêves et une parole qui vient de lui et qui n'est pas marquée dans la Bible. Mais passe de l'autre côté, dit un Macédonien. Voilà. C'est un lien étroit qui se noue avec les premiers convertis. Nous en parlerons. Ces gens sont fidèles, ils ont reçu Jésus, ils sont très divers. Vous avez choisi les gens de l'Église, vous ? Non, hein ? On vous les impose, hein ? Enfin, c'est le Seigneur qui vous les impose. Parce que si on avait choisi, on n'aurait pas choisi les mêmes, non ? Et il y a des gens qu'aujourd'hui, ils choisissent, mais ils trichent avec le plan de Dieu. Ils choisissent ceux qui sont en Jésus selon l'heure. C'est eux les seigneurs. Mais on ne choisit pas. Quelqu'un qui confesse Jésus, c'est ton frère et ta sœur. C'est Dieu qui l'a choisi. On continue. Des fidèles, des convertis, différents, d'origine païenne, d'origine juive, d'origine païenne devenue juive, c'est-à-dire des prosélytes, ça s'appelle des adorateurs. Et puis, des gens vraiment qui étaient dans une autre sphère, comme cette devineresse, vous savez, cette jeune esclave devineresse qui suivait Paul et son compagnon, en disant « Ce sont les serviteurs du Dieu très haut ». Vous savez, des gens qui fonctionnent autrement que vous et moi. Et qui ont affaire avec les esprits, les mentalités différentes, de domination. Et on continue. Ils prennent part, eux, unique église, qui n'est pas grande église, mais ils soutiennent le ministère de l'apôtre Paul, alors que Éphèse, Corinthe, ne soutenait pas comme ça. On l'a déjà vu. Ils prennent part à la diffusion de l'évangile. Ce sont des évangélistes, puisqu'ils ont reçu la grâce du Seigneur. Là, dans leur sphère d'activité, ils sont des témoins. Mais il y a peu de membres, mais beaucoup de ministres. Regardez voir tout au début de l'épître. C'est assez, je ne sais pas, on ne le lit pas toujours, mais Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints, c'est-à-dire les chrétiens normaux, hein, en Jésus-Christ, qui sont à Philippe avec leur surveillant, épiscopes, et c'est la même chose, leur au pluriel, et leur diacre. À vous, grâce et paix de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il devait y avoir une petite course au perchoir là-dedans. On continue. Je vais vous décrire maintenant des personnes. Après, on imagine ce que fait la lettre envoyée à cette église. Que fait cette lettre avec Éphésiens 2 à cette église? Et on va réfléchir à la vision divine. On y arrive. L'église. Une unité de cœur en Jésus. Mais pas une uniformité. Quand j'ai prié, je n'ai pas dit, Seigneur, qu'il soit uniforme, misé, pasteurisé, homologué, rectifié, mais qu'il soit d'un même cœur. Pas une pression extérieure qui cherche à conformer. Il y en a un dont on essaye d'être conforme, c'est le Seigneur Jésus. Tout le reste est assez divers dans une église. Comme divers comme les mains qui sont représentées sur cette photo. Maintenant, j'ai différents ustensiles. Est-ce que quelqu'un se sentirait symbolisé par ce trousseau de clés? C'est quelqu'un qui a du pouvoir, hein, non? Si, c'est quelqu'un qui aime l'ordre. Chacun dans sa cellule, les amis. Et sachez que le geôlier, s'il laissait échapper à l'époque un prisonnier, c'est lui qui devait encourir la peine du prisonnier qui est parti. C'est la raison pour laquelle le geôlier là, une fois que Paul et son copain étaient en prison, qui chantaient des cantiques, c'est pas pour ça qu'il s'est converti. C'est pourquoi il s'est converti, le geôlier de Philippe. Et il faut lire Acte 16. Hein. On va pas le faire maintenant, sinon j'arrive pas à ma conclusion. Parce qu'il y a eu un tremblement de terre, mais là, c'est plutôt une raison de suicide, il voulait se suicider. Vous savez, l'histoire? Oui, vous connaissez la Bible, mais les autres, lisez, hein. Sinon, on invente. C'est dans le livre des Actes. Mais il s'est converti à ce Dieu parce que les deux prisonniers qui étaient là sont restés. Ils sont fous, ces Romains. Et ils sont romains. Et ils n'avaient pas le droit d'être flagellés. Et ils le savaient. Ils ont caché qu'ils étaient romains pour poser un problème. Et du coup, tout le monde avait peur. Mais ça, on ne le sait pas encore à ce moment-là. Mais ces prisonniers restent. Et le geôlier qui aime l'ordre, Quelqu'un se sent un peu symbolisé par ça ? J'aurais besoin de 3 volontaires. Écoutez, je n'abuserai pas de la situation. Est-ce que quelqu'un peut venir, il aime l'ordre ? Ben oui, c'est un don, hein ? C'est un métier aussi. Il est un chrétien. Et lui, il s'est ouvert à la messianité de Jésus. Et il est sans doute quelqu'un d'origine païenne avec toutes sortes de coutumes. Mais il a l'habitude que dans l'église, il y ait C'est vrai, hein ? Et c'est bien l'ordre. Et ensuite, une femme esclave. Alors, ceci symbolise la voyance, mais ça n'a jamais servi à la voyance. Tu veux l'apprendre ? Mais tu es la bienvenue. Viens. Et c'est toi qui m'as suggéré ce tissu et j'ai beaucoup aimé. Ça symbolise quelque... Est-ce que tu veux bien la mettre sur toi ? Mais peut-être comme tu veux. Merci. Quelles sont ses habitudes ? Esclave. D'accord ? Donc soumise. Mais aussi, comment elle fonctionne ? Quelles sont ses habitudes ? Je ne parle pas de toi comme personne. Quoique. C'est quoi son type d'intelligence ? Oui ? Mais après ? C'est quoi son type de cerveau ? L'intuition. Elle a le sens aiguisé de l'intuition. C'est pas juste ? Quelqu'un qui est utilisé, et même c'est à cause d'elle, enfin non, pas à cause d'elle, à cause du Seigneur que les deux sont en prison. Pourquoi ? Parce que les gens du business qui utilisaient elle pour se faire du sou, donc ses patrons, n'avaient plus de sous à se faire à partir du moment où son diamond, c'est-à-dire sa mentalité d'intuition mise au service d'un mauvais esprit, était chassée. Elle reste intuitive, non ? Ou bien ? Elle devient tout d'un coup une matheuse ? Non ? Elle devient disciple du Seigneur Jésus et elle fait partie avec lui de l'église de Philippe. Vous y êtes ? Dans quel cantique il va chanter, lui ? Et puis elle ? Elle va chanter sur les ailes de la foi. Est-ce que tu veux bien te mettre à côté ? On va faire l'église, vous allez voir. Il manque quelqu'un. Écoutez, on a le geôlier, on a une femme esclave, on a maintenant une femme qui a une autonomie de pensée, qui décide d'accueillir les gens chez elle. Elle est probablement loin de son mari, une veuve, soit une businesswoman célibataire. On ne sait pas, c'est pas marqué dans le livre des actes, mais elle a une autonomie incroyable. Et puis celle-là, ça déménage là-haut. Elle est une femme de pouvoir. Écoutez, elle est marchande de pourpre. Pourpre, c'est pour les bien dotés. Hein ? Le pourpre, c'est laquelle des couleurs ?
C'est un rouge violacé. Ça serait ça.
Oui. Les soldats romains qui voulaient en imposer mettaient, certains, du pourpre pour montrer quelque chose d'agressif, mais aussi quelque chose de très riche. C'est des couleurs qui signifiaient beaucoup d'argent. Est-ce que quelqu'un ici se sentirait symbolisé par la businesswoman ? Vous avez le droit de dénoncer parce que là, la modestie... si elle ne veut pas, on ne peut pas la forcer. Vous voulez venir ? Businesswoman. Alors, je le mets autour de vous. Tu le mets autour de toi. Voilà. Alors, c'est presque du pourpre. Est-ce que tu veux bien te mettre là, entre les deux ? Voilà. C'est une femme qui a une maisonnée, qui accueille, et c'est même chez elle que beaucoup de choses se passent, parce qu'elle a des grands biens. D'accord ? Bien. Il y en a d'autres. Deux qui se bagarrent, vous le voyez dans Philippiens 4, verset 2, « J'exhorte Saint-Tiche et Évodie à se mettre d'accord ». Ça, c'est vous, ça. Non, c'est nous, ça. Et puis il y a aussi un autre, Épaphrodite, qui fait le lien avec Paul. Il amène de l'argent chez Paul qui est en prison, mais manque de peau. Épaphrodite, à la place de l'aider, il tombe malade et Paul doit encore prendre soin de lui avec son réseau d'amis dans la ville où il est. Toujours est-il, il rentre. Imaginons maintenant leur manière de vivre. D'accord ? Une businesswoman, quelqu'un qui aime l'ordre et qui aime obéir et être donné à être obéi, et puis aussi quelqu'un qui est voyante, mais qui était voyante, et maintenant qui est voyante pour Jésus, si vous voulez, mais excusez, ça ne se dit pas. Mais qui voit, qui a du discernement. Bon, merci. Ça, c'est plus orthodoxe. Du discernement. Et qui sent les choses, et qui voit les choses, n'est-ce pas ? Leurs habitudes sont différentes, vous êtes d'accord ? Ils ont des modes de fonctionnement différents. Oui ? C'est qui le chef de l'Église ? Ouais, c'est pas mal de dire c'est Jésus, hein, mais qui va prêcher ? Vous saisissez ? Ce sont des gens qui savent être efficaces, hein, les deux-là au moins. Hein. Si, vous saisissez ? C'est ça l'Église primitive. La marche avec Jésus, c'est dans l'Église concrète. La marche avec Jésus...
Si on n'est à rien les deux, alors qu'est-ce qu'on est ?
Ah ben vous êtes quelque chose, bien sûr. Vous êtes des membres du corps de Christ. Mais ensemble, quel chant ils vont chanter ? Qu'est-ce qu'ils vont lire ? Qui va dire sur quoi on prêche dimanche ? Qui fait le catéchisme ? Qui va nettoyer la salle dans laquelle...
C'est moi.
Non, c'est pas sûr. Pourquoi ça doit être l'esclave ? Pourquoi ? C'est marqué où, ça ? Hein ? C'est marqué où ? Non, mais honnêtement, qui fait le ménage dans une chapelle ? C'est que les professionnels du ménage ? Non, tout le monde est capable. Hein ? Suivez mon regard. Les dons. Le Seigneur va donner des dons, mais je vous remercie. Leur manière de vivre l'Église... Structure d'autorité de service, orientation du témoignage, manière de faire la collecte, de résoudre les problèmes. Les uns et les autres ont des techniques différentes pour avancer et Jésus doit faire là-dedans quelque chose qu'il veut absolument faire avec des gens réels, normaux, vivre le corps de Christ. Philippe. Et depuis Philippe, toutes les églises. Je vous remercie beaucoup. Je veux vous aider à descendre. Voilà, tout droit. Merci beaucoup à tous les trois. Nous allons continuer. En fait, on n'a pas encore pressé le citron suffisamment pour que ça nous nourrisse tous, quoique on a commencé. Il y a comme des différences. Il y a le monsieur Sumo, on ne le voit pas bien, c'est un énorme monsieur qui est là devant un enfant. Il y a des différences. J'ai exagéré la différence. Vous savez ce que c'est le sumo ? Mais le secret de leur vivre ensemble, unis à Jésus-Christ, il est marqué là, et c'est quelque chose qui ressemble au mot « humilité ». Dans Philippiens chapitre 2, seulement le mot « humilité », c'est quelque chose qui n'est pas facile. Souvent, les gens disent « humilité, c'est quand je me compare à plus rien du tout ». Or, ce n'est pas ça. J'aimerais juste que vous reteniez quelque chose du secret que donne Paul pour l'Église et dans la différence. Le mot humilité n'est pas quand je me considère plus comme rien du tout, que je m'avilis moi-même. Le mot humilité désigne plutôt une attitude où je reste moi-même, mais où je considère les autres comme supérieurs à moi. C'est ça qui est préconisé ici et ça me paraît être très très important. Aujourd'hui, particulièrement où ce mot n'est plus tellement mâché, mais pourtant est présent, que l'humilité fasse que vous considériez les autres comme supérieurs à vous-même. À l'exemple du Christ. Le Christ ne s'est pas décomposé, sa personnalité au contraire était là, mais il n'a pas, lui en tant que personnalité, considéré les autres comme rien du tout. Il les a considérés comme des personnes dignes d'être aimées. Et a voulu les respecter, même s'il n'était pas d'accord. On a le droit de ne pas être d'accord dans une église. Pour rester soi-même, on est obligé de réfléchir avec son propre cœur, bien sûr ouvert à l'Esprit Saint et à la parole de Dieu. La considération des autres est la clé des dissensions normales dans une église. Vous m'avez entendu dire « normal ». Si on vous dit « venez dans cette église, tout est super », le chef dicte à toutes les autres ce qu'il faut faire et personne ne rouspète « quittez, fuyez très vite !» C'est peut-être paisible comme un cimetière. Mais ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus, où chacun, compte tenu des dons qu'il a, de sa personnalité, doit avoir une place. Et le secret, ici, n'est pas « voilà les structures que moi, l'apôtre Paul, je préconise. Quand je viendrai, je ferai du ménage parmi vous, je vous dirai qui a tort, qui a raison. » Non. Il ne dit pas non plus « moi, je dis que c'est le gardien de prison qui va trancher. » Il ne donne pas une structure, il donne un esprit. Et dans l'esprit, il donne l'exemple de Jésus-Christ. D'où, je reviens en arrière, vivre en église, c'est comme vivre avec Jésus et être à son école, dans la diversité de qui nous sommes. Si, absent, dit l'apôtre Paul, je pourrais apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur, dans une foi fondée sur l'évangile, sans vous laisser intimider, cela vient de Dieu. Autrement dit, l'apôtre Paul attend que ça vienne de Dieu. Que cette chose qui est tous ensemble dans la diversité, mais avec un même cœur, est vraiment attendue par les apôtres et par le Seigneur Jésus. Je continue. Philippiens 2, nous l'avons lu, ça vaut la peine de faire la révision mentale. Rendez ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Tendez, c'est jamais fini. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites rien par esprit de rivalité. Moi plus fort que toi. Moi plus vieux que toi. Moi plus biblique que toi. Moi plus riche que toi. Moi plus influent que toi. Moi plus beau que toi. Moi, enfin, on pourrait continuer, vous voyez ? Moi plus ordré que toi, moi plus entreprenant que toi, moi plus intuitif que toi, moi plus sensible au Saint-Esprit que toi. Vous pouvez ajouter beaucoup de choses. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par l'humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non à ses propres qualités, mais à celle des autres, tendez à vivre entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Qu'est-ce qui convient quand on a Jésus comme le Seigneur ? Je résume. Les conflits. Il y a des couples ici qui n'ont pas de conflits ? Non, ce n'est pas la peine de répondre, je sais. La question, ce n'est pas des conflits ou pas de conflits. Tout le peuple de Dieu, dans l'Ancien et dans la Nouvelle Alliance, il y a des conflits. C'est normal. Puisque nous sommes divers et nous avons à nous ajuster ensemble les uns aux autres et ensemble avec le Seigneur. La question n'est pas est-ce qu'il y a des conflits, mais est-ce qu'il y a des conflits qui n'ont plus lieu d'être ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être d'un même cœur, même malgré les différences ? Ça, il ne faut rien d'autre que le Saint-Esprit pour cela. La réponse n'est pas dans une structure d'autorité plus claire, mais en Jésus-Christ à sa manière. Et quand je regarde les conflits, Paul, même en prison, il y en a qui étaient contents qu'il était en prison, ils étaient des chrétiens. Nous l'avons lu la fois dernière, je me souviens, dans Philippiens 1, 18. Et il dit, pourvu que le Christ soit annoncé, même s'il m'aime, pas moi, et qu'il ne reconnaisse pas mon apostolicité, bien qu'en prison... Paul est en prison quand il écrit aux Philippiens, mais il dit « pourvu que Jésus-Christ soit annoncé ». Pour lui, Jésus-Christ est plus important que les divergences d'opinion même qui durent. Et la deuxième chose, c'est celle que nous apprenons. Si, 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 dubitatif, si Jésus, c'est pas du bluff, si moi je suis pas en prison pour rien du tout, alors rendez-moi ma joie complète et ne laissez pas pourrir les choses dans l'Église. Et pour ne pas laisser pourrir les choses, il ne faut pas que tout le monde joue à la carpette et à un semblant de soumission, d'uniformisation, pour qu'on ne laisse pas pourrir les choses. Selon le Seigneur Jésus, il faut que se passe quelque chose d'important la volonté de servir le prochain. L'humilité à l'image de Jésus. Au lieu de s'intéresser à eux et à leur charge, qu'ils cherchent l'intérêt des autres. Au lieu de s'intéresser à eux et à leur charge, qu'ils cherchent l'intérêt des autres. Frères et sœurs, est-ce qu'on est prêt à chercher l'intérêt de tous les autres, de tous les frères et sœurs de cette Église, où on se sature juste avec les copains et les copines avec lesquels on s'entend bien depuis longtemps? C'est une question importante, puisque le Seigneur ajoute, c'est pas moi qui décide, c'est lui par l'Esprit. Tous mes frères et mes sœurs seront différents et je dois apprendre à développer cette attitude. C'est un début de mise en commun des dons. Quand on fait ça, c'est un début de mise en commun des dons, pas juste ma clique, ou moi d'abord. Début d'une mise en commun des dons, et un charisme n'est charisme que quand il est au service des autres. Un charisme n'est pas charisme quand il n'est pas donné. Mais tout ce qui est donné pour l'édification, c'est cadeau de Dieu, charisme. Des disponibilités. Aujourd'hui, on n'a plus le temps. Je crois que si je pouvais avoir 3 vies éternelles pour faire tous les loisirs qu'on me propose, je ne dirais pas non. Mais je passerais à côté du plan de Dieu. Qui me dit, elle, lui, priorité. Les visiteurs de personnes âgées deviennent elles-mêmes très âgées. Je prie que dans les 2 ans qui viennent, il y ait 5-6 jeunes. Jeunes, c'est en dessous de 50 ans, hein, qui disent, moi, j'ai entendu que si Jésus viendrait aujourd'hui, il irait aussi voir ces personnes limitées, aînées, seules. Je veux me mouiller la chemise et prendre du temps aussi pour les visiter. Le reste, c'est vraiment peu d'intérêt. Les plus anciens, les plus travailleurs, les plus influents, les meilleurs prédicateurs, les plus beaux, etc. C'est pas intéressant. Si, c'est intéressant, mais c'est pas important. Je continue. Souvenez-vous, en plein milieu du livre des Philippiens, il y a car le Christ, l'exemple du Seigneur Jésus. Jésus, qu'on peut suivre dans tous les siècles, dans tous les endroits géographiques du monde, pour être son disciple, regardons la vie de Jésus. Jésus, l'homme. L'homme qu'il a été est le sauveur. En prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes. Ça, c'est la leçon importante. Un début de partage des dons et du temps a lieu quand cette spiritualité me touche. J'arrête l'approche sélective de mes amis. Je rentre dans le plan de Dieu. Ce que Dieu veut avec les rachetés en Jésus, ce n'est pas du bluff, c'est son programme, c'est sa politique. Il est sérieux avec l'Église, sans faire de sélection dedans. Chacun peut avoir, bien sûr, sa petite idée. Et les 3 qui étaient là avaient tous leur petite idée. Ils ont un cerveau où ça fonctionne. Ils ont une idée. Mais cette petite idée que l'on a n'est pas aussi grande que la réalité ultime de Jésus. Et je suis frappé par une expression qu'on trouve chapitre 1, verset 10 et 2, verset 16. Et celle-là, on n'en a pas encore parlé. Ce qui est au cœur du zèle missionnaire de Paul, c'est le jour de Jésus-Christ. Il fait tout ça parce qu'il sait qu'un jour, il rendra des comptes à une seule personne. C'est ni Napoléon, c'est pas non plus les Bernois, c'est pas non plus... le code civil, c'est Jésus. Je sais que je rendrai compte à Jésus, je sais que son programme, c'est l'Église, et en attendant, ma petite idée est moins importante que la grande idée dans laquelle je m'inscris à tous les âges et dans toutes les situations dans lesquelles je suis. Je résume et je conclue. Gardons en tête, quand nous travaillons ensemble, quand nous vivons professionnellement, avec la famille, avec les amis, qu'il y a un but intermédiaire. Le plan divin, ce n'est pas du bluff, c'est créer une nouvelle communauté faite de gens différents. À la croix, il a abattu le mur de la haine qui sépare les gens qui se séparent habituellement en catégories sociales, linguistiques, culturelles, raciales, âge. Jésus, il a cassé ce mur-là pour essayer de vivre, et il est sérieux avec cela, quelque chose qui s'appelle l'Église. Et pour les conflits, je le redis ici, ce n'est pas une exception. C'est juste normal compte tenu de qui nous sommes, mais il y a là quelque chose qui doit devenir cher à mon cœur. Puisque Dieu le veut, je l'aime et je le veux. Il y a là un petit livret, j'en ai juste 4 exemplaires, 7 bonnes raisons d'aimer l'Église. J'ai un autre petit livret qui est ici. Aujourd'hui, les forces de diffraction sont à l'œuvre comme jamais depuis 2000 ans. C'est-à-dire d'isolation. L'idéal aujourd'hui est un moi religieux autonome. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le moi religieux autonome n'est pas le plan de Dieu. Je ne suis pas le corps de Christ tout seul, ou bien ? Qui est-ce qui est encore avec ? Vous aussi ? Et tous ceux que le Seigneur va ajouter, même ceux qui sont là-haut. L'Église, engagement ou zapping. Pas mal comme titre, hein ? J'en ai juste 4 exemplaires au cas où, ceux qui veulent s'intéresser. Les forces de mentalité occidentale ne vont pas vers la réalisation concrète de l'Église, dans ses difficultés, dans sa différence. Vous saisissez ? Chacun dans sa boîte, comme on se ressemble. Je vous ai souligné le but intermédiaire. Je vous ai dit que dans le cœur de Paul, il y a un but ultime. Et on n'en parle pas assez. Il fut un temps, on parlait trop et trop mal du retour de Jésus. Mais le retour de Jésus, c'est le but ultime de Paul. Dans l'Épître aux Philippiens, « Notre cité à nous est dans les cieux ». C'est-à-dire, la cité, ce n'est pas que moi tout seul, moi sauvé là-haut devant le Père. La cité, c'est beaucoup de gens ensemble, vous êtes d'accord ? C'est un collectif. Notre cité à nous, c'est dans le ciel. D'où nous attendons ? Comme sauveur. Nous l'attendons comme sauveur. Jésus-Christ, c'est Philippiens 3, 21. Ce à quoi on aspire, c'est dans le ciel, ça va venir, nous attendons le Christ. Mais qu'est-ce qui va introduire le Christ ? Il transfigurera notre corps humilié. Le corps du Christ est en convalescence, mes amis, jusqu'à un jour. Jusqu'à un jour. Où il sera sur une terre où la justice habite et où la mort n'existe plus. C'est Jésus qui va l'introduire. Nous attendons Jésus-Christ, le Sauveur, qui transfigurera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps de gloire, avec la force qui le rend possible aussi de se soumettre toutes choses. En attendant, c'est vrai, les forces du mal et les forces de la mort sont à l'œuvre de différentes manières. Mais nous sommes en convalescence et nous attendons. Et nous travaillons, nous invitons l'Esprit et nous permettons sa parole de nous transformer. J'ai trouvé une petite image d'un certain cardinal Saliège. C'est un des rares cardinaux qui a pris fait et cause contre le nazisme et la déportation des Juifs en 1933. Il y a aussi des bonnes choses chez les autres. Hein. Cardinal Saliège a dit « La joie, c'est le sujet. La joie, c'est la fleur qui pousse sur la tige de l'amour. » Et je trouve ça tellement juste. L'espérance qui est la nôtre nous aidera à maintenir ce cap. Est-ce qu'on poursuit cette vision dans la joie ? C'est une question. Vous êtes partant ? On continue ? On continue ? Pour cela, il faut aimer le jour du Christ, donc le prochain dans sa différence. Amen.